Il est 12h30 sur France Culture et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction.
Un journal largement consacré à la disparition de Claude Lanzmann, mort aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Le réalisateur de Shoah était bien plus qu'un simple cinéaste documentaire. Portrait avec Cécile de Kervas-Doué et réaction de son ami Serge Toubiana dans un instant. Et nous réécouterons Claude Lanzmann au micro de Laure Adler en 2006. Dans ce journal également, au Royaume-Uni, le Novichok mis en cause dans l'empoisonnement d'un couple près de Salisbury, la même où l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille avaient été contaminé. Aude Soufi nous appellera de Londres. L'inquiétude de la commission d'enquête parlementaire sur la sécurité nucléaire en France. Les élus demandent une meilleure protection des centrales contre le risque terroriste. Dossier préparé par Véronique Robérot. Maïlys Besserie au sommaire de la grande table d'été.
Mais nous aussi, nous allons rendre hommage à Claude Lanzmann pendant une heure.
À tout à l'heure, Maïlys.
À tout à l'heure.
Claude Lanzmann est mort, c'est le journal Le Monde qui a donné l'information en fin de matinée. Le réalisateur du film Shoah s'est éteint aujourd'hui à Paris à l'âge de 92 ans. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Cinéaste, journaliste, écrivain, philosophe, la carrière foisonnante de Claude Lanzmann ne saurait se réduire au seul film Shoah.
Je ne suis ni blasé ni fatigué. Une centaine de vies, je le sais, ne me lasserait pas. C'est ce qu'écrivait Claude Lanzmann dans son livre mémoire Le Lièvre de Patagonie, paru chez Gallimard en 2010. Sans vie, c'est bien ce qui ressort, oui, de sa biographie. Résistant, philosophe, journaliste, romancier, cinéaste, producteur, aventurier, défenseur d'Israël, il fut le compagnon de Simone de Beauvoir, l'ami de Jean-Paul Sartre. Fils d'une famille juive, Claude Lanzmann fait l'expérience très jeune de l'antisémitisme alors qu'il est au lycée Condorcet à Paris avant la guerre. Pendant la guerre, à 18 ans, il rejoint les jeunesses communistes et la résistance. Et après la guerre, il se tourne vers la philosophie en travaillant notamment sur Leibniz et sur la question du possible et du choix. Pour gagner sa vie, il commence une carrière de journaliste à France Dimanche, Elle ou France Soir, mais hanté par l'Allemagne, il part rendre compte de ce qui se passe au-delà du rideau de fer. Le journal Le Monde le publie, il est remarqué par Sartre qui lui propose de rejoindre la revue Les Temps Modernes où il rencontre tous les intellectuels de son époque et tombe amoureux de Simone de Beauvoir. C'est à ce moment-là aussi qu'il entreprend ses premiers voyages en Israël dont il deviendra un défenseur acharné. Son premier film, Pourquoi Israël, lui est d'ailleurs consacré en 1973. Mais ce qui le fait connaître comme cinéaste, c'est surtout Shoah, sorti en 1985. Un documentaire de près de 10 heures sur les crimes nazis et sur la douleur des survivants. Un film que Lanzmann a mis 12 ans à tourner. Un film que Simone de Beauvoir qualifiait de magique parce qu'il faisait vivre la Shoah aux spectateurs sans archives, avec tout simplement des témoignages directs, des lieux, des situations. Par la suite, Lanzmann sortira d'autres films centrés sur les personnages de Shoah ou encore sur le docteur Mengele et en 2017 encore Napalm sur la Corée du Nord. Amoureux des femmes, comme son père, Claude Lanzmann s'était marié plusieurs fois. Il était également très sûr de sa propre valeur et pas toujours simple à aborder, sans doute parce qu'il était aussi sans artifice. Il aimait d'ailleurs à répéter et à écrire « Si je suis irréductible, c'est par rapport à la vérité. Je n'ai jamais joué avec ça. »
Cécile de Kervas-Doué, merci. Et en 2006, au micro de Laure Adler dans À Voix Nue, Claude Lanzmann avait évoqué son œuvre maîtresse Shoah, un objet singulier selon lui. Je vous propose de le réécouter.
Un film comme Shoah est une création pure du début à la fin. C'est pourquoi je récuse l'appellation de documentaire pour ce film. Enfin, ça fait exploser la catégorisation documentaire-fiction qui est plate et qui ne va pas très loin. Souvent dans les films de fiction, c'est la partie documentaire qui est la meilleure. Et en tout cas, il ne s'agit pas, avec un film comme Shoah, de l'enregistrement sonore ou visuel d'une réalité préexistante. Il n'y avait aucune réalité à filmer. Il fallait la créer, cette réalité, l'inventer. La locomotive de Treblinka, elle n'y était pas. J'ai dû la prendre, la louer, l'insérer dans le trafic des chemins de fer polonais et la faire arriver à Treblinka, etc. Et tout est comme ça. La chanson qui ouvre le film, la chanson polonaise qui ouvre le film, il chantait quand il avait 13 ans et qu'il était là-bas à Chełmno. Mais il a fallu l'inventer complètement.
Claude Lanzmann en 2006, entretien retrouvé en intégralité sur franceculture.fr. On va maintenant écouter la réaction de Serge Toubiana. Serge Toubiana, ancien directeur de la Cinémathèque et surtout ami personnel de Claude Lanzmann.
Chaque fois que je le voyais, et encore tout récemment à l'hôpital, je me disais, il est immortel, il ne peut pas, il a un tel appétit de la vie, il a une telle puissance en lui pour vivre et survivre malgré l'âge, malgré la fragilité, la faiblesse. Et son cinéma ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il a passé 12 ans de sa vie à concevoir, à réaliser, j'allais dire à construire, à bâtir, à sculpter le film qui est Shoah, qui est une espèce de film météore dans l'histoire du cinéma mondial. Et donc c'est un cinéaste immense, voilà, c'est un cinéaste immense. C'était un homme, compliqué, exigeant, fraternel. Moi, j'ai eu la chance de le connaître et de l'aimer. Et là, je suis dans un taxi, je vais à son chevet à l'hôpital, vous voyez. Donc, il a fait partie de ma vie pendant de longues années et c'était un homme exceptionnel. Je n'ai pas d'autre qualificatif. Exceptionnel, voilà.
Serge Toubiana répondait à Christine Moncla. Les programmes de France Culture seront bien sûr largement consacrés aujourd'hui à la disparition de Claude Lanzmann. Et tout de suite après ce journal, retour sur cette disparition dans la grande table d'été avec Maïlys Besri. La question de l'antisémitisme est au centre du procès qui se déroule actuellement aux assises à Créteil. Dans le box des accusés, 3 hommes soupçonnés d'avoir agressé un juif et sa compagne en 2014 à leur domicile. La jeune femme a été violée. Ce matin, la procureure a requis jusqu'à 20 ans de réclusion contre les agresseurs. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Marette.
Pendant son réquisitoire, qui aura duré 2 heures, la procureure est longuement revenue sur la dimension antisémite de l'agression. Le choix de la cible, une famille juive, car le juif a de l'argent, un préjugé constant dans cette affaire. L'avocate générale s'adresse aux accusés. Si vous ne comprenez pas le caractère antisémite de cette agression, alors vous resterez dangereux au moment de votre sortie. Elle demande à ce que l'agresseur jugé pour viol soit reconnu coupable. Il n'a pas été formellement reconnu par la victime car il portait une cagoule, mais c'était un homme noir. Or, parmi les cambrioleurs, 2 sont de type africain. Laurine a reconnu la voix de celui qui ne l'a pas violé, celui qui portait des gants en latex blanc. Et par élimination, ces éléments incriminent l'autre agresseur noir, selon la procureure. Elle revient sur la violence des actes, les lésions constatées dans le certificat médical. Ce viol qui a fait de Laurine une handicapée sociale, incapable de prendre les transports en commun. Laurine qui ne supporte plus d'être seule, qui ne supporte plus la foule et certains bruits. Nous n'avons malheureusement pas eu, lors de cette audience, de manifestation de la vérité, regrette l'avocate générale. Elle requiert de 10 à 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre des 3 hommes. Ils ont aujourd'hui 22, 23 et 26 ans. L'un d'entre eux est en fuite en Algérie. Elle demande également 12 et 8 ans de prison pour 2 complices, jugés en même temps devant la cour d'assises du Val-de-Marne.
Antoine Marette, depuis le palais de justice de Créteil. Le Novitchok a encore frappé au Royaume-Uni. Un couple de la région de Salisbury est aujourd'hui hospitalisé dans un état critique. Les 2 Britanniques ont été empoisonnés par cette substance mise au point en Russie. Ce même Novitchok qui avait contaminé en mars à Salisbury, justement, l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia. Cette nouvelle affaire est entre les mains des services antiterroristes. Et ce matin, la première ministre britannique Theresa May a réuni le comité Cobra qui regroupe les ministres chargé des questions de sécurité. Aude Soufi nous appelle de Londres.
Existe-t-il un lien entre les 2 affaires? En tout cas, c'est bien le même agent neurotoxique, le Novitchok, qui a contaminé ce couple et l'ex-espion russe et sa fille. Mais pour le moment, la police ne peut pas confirmer s'il s'agit du même lot ou d'une nouvelle source. Le laboratoire du centre de recherche militaire de Porton Down doit continuer d'analyser les échantillons fournis. Les victimes, un homme âgé de 45 ans et une femme de 44 ans, sont des citoyens britanniques sans aucun lien apparent avec les Skripal. Comment donc ont-ils pu être exposés au même poison 4 mois plus tard et alors que les autorités avaient garanti que les habitants ne couraient aucun risque? Le chef du contre-terrorisme britannique, Neil Basu.
La priorité de l'équipe d'enquêteurs maintenant est de déterminer comment ces 2 personnes sont entrées en contact avec cet agent innervant. Je veux rassurer le public. Il n'y a aucune preuve que cet homme ou cette femme se soit rendu récemment dans l'un des sites qui a été décontaminé à la suite de la tentative de meurtre contre Sergueï et Yulia Skripal.
Face à l'inquiétude, les autorités sanitaires affirment qu'il n'existe pas de risque significatif pour le grand public et que si d'autres personnes avaient été exposées au Novitchok, les symptômes se seraient déjà manifestés.
Rappelons que l'affaire Skripal avait provoqué une crise diplomatique majeure entre les Occidentaux et la Russie. Au total, plus d'une centaine de diplomates russes en poste en Occident avaient été expulsés. En Syrie, le régime Assad et son allié russe font à nouveau parler les armes pour reconquérir la province de Deraa, l'un des derniers bastions de la rébellion. Le prétexte, c'est l'échec des négociations avec les insurgés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les rebelles de la région de Deraa auraient refusé les conditions russes pour un cessez-le-feu. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Et depuis hier, les avions russes et syriens soumettent la province de Deraa à un véritable déluge de feu.
Plus de 600 frappes aériennes en 15 heures, des centaines de missiles et de barils d'explosifs ont été lancés durant la nuit par les avions russes et syriens sur ces zones insurgées non loin de la ville de Deraa. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et les frappes se poursuivent ce matin. Le directeur de l'OSDH parle d'un bombardement hystérique sur la province, pilonné sans relâche durant la nuit. 6 civils, dont une femme et 4 enfants, auraient été tués. Il s'agirait des frappes les plus massives depuis le 19 juin, quand les armées russes et syriennes ont entamé la reconquête des territoires insurgés de cette province de Deraa, rebelle au pouvoir central et l'une des toutes premières à se révolter contre Bachar al-Assad en 2011. Une province qui faisait pourtant l'objet d'un cessez-le-feu négocié par la Russie, la Jordanie et les États-Unis. Elle s'est transformée depuis la nuit dernière en enfer, témoigne l'OSDH. Hier soir, plusieurs factions insurgées ont en effet refusé de plier aux conditions exigées par Moscou et Damas. Restitution en une seule fois de leurs armes lourdes, pas d'évacuation vers d'autres zones tenue par les insurgés. Pour la première fois depuis 3 ans, le régime syrien aurait repris le contrôle d'un poste de sécurité à la frontière avec la Jordanie. La province de Deraa, dans le sud, est en effet frontalière de la Jordanie et du plateau du Golan, occupé par Israël. Deux pays qui tentent d'envoyer de l'aide humanitaire aux quelques 300 000 civils déplacés par les combats et soumis à de très rudes conditions dans le désert, mais qui refusent de les laisser passer. Depuis la mi-juin, une trentaine de localités rebelles dans cette province ont déjà été reconquise par cette méthode de bombardement massif pour arracher la capitulation.
Marie-Pierre Véraud, merci. Toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime Assad contrôlerait actuellement plus de 60% du territoire syrien. Retour en France, il faut renforcer la sécurité des centrales nucléaires. C'est la conclusion d'une commission d'enquête parlementaire qui a remis ce matin son rapport. On y trouve 33 mesures destinées à mieux protéger les installations. Mardi, Greenpeace avait pointé les défaillances de la sécurité nucléaire en France en envoyant un drone et un avion miniature sur la centrale du Bugey. Véronique Robérot, bonjour.
Bonjour.
La commission d'enquête parlementaire insiste beaucoup sur la menace terroriste contre les centrales.
Les députés font ce constat. Les installations nucléaires françaises n'ont pas été conçues pour résister à une agression terroriste. Une faille originelle qui a conduit la commission d'enquête à poser un certain nombre de questions concrètes sans pour autant obtenir toujours des réponses précises de la part à la fois des pouvoirs publics et d'EDF. C'est ce que déplore Barbara Pompilier, c'est la rapporteure de cette enquête parlementaire. Elle était ce matin sur France Inter.
On nous a dit qu'il y avait des tests qui ont été faits suite à ce que Greenpeace a dit sur les risques d'armes qui pouvaient, par exemple, creuser des trous dans les murs des piscines, des réacteurs. Sauf que quand on a dit, écoutez, vous avez fait des tests, montrez-les-nous, qu'on puisse voir par nous-mêmes, c'est secret défense. Quand on nous dit l'épaisseur des murs des piscines est suffisante, est-ce qu'on peut voir les plans pour pouvoir se faire une idée? C'est secret défense. C'est un vrai problème parce qu'on nous demande de faire confiance. Un député dans une démocratie ne fait pas confiance, il vérifie.
Ouais. Autre danger pointé par les députés, le recours massif à la sous-traitance. Dans le nucléaire, 80% des tâches de maintenance sont confiées à des entreprises prestataires, avec comme conséquence une perte de compétence de la part de l'exploitant EDF, une dépendance et une perte aussi de contrôle des sites par l'opérateur lui-même. Un risque gigantesque de l'avis du secrétaire général de Force Ouvrière, Pascal Pavageau.
C'est une aberration. Nous, on est favorable au mix énergétique et on est favorable à l'énergie nucléaire. Donc le sujet n'est pas d'être anti-nucléaire ou d'être pro-nucléaire, c'est même pas notre sujet. Le sujet, il est pour nous, organisation syndicale, la protection de celles et ceux qui travaillent dans cette filière. Et objectivement, de ce point de vue-là, la sous-traitance est une aberration, est une mise en danger pour celles et ceux qui travaillent et un risque, du coup, pour l'ensemble de la population.
Réaction d'EDF ce matin, la synthèse de ce rapport sur la sécurité et la sûreté nucléaire ne relève aucun manquement aux obligations lui incombant.
Véronique Robérotte, merci. Cette dernière information, le Parlement européen vient de rejeter la réforme controversée du droit d'auteur dans l'Union européenne. Nous y reviendrons dans notre journal de 18h. Un mot du temps cet après-midi, toujours instable avec des orages marqués sur le nord-est, un risque orageux qui concerne en fait la majeure partie du territoire. Seul le soleil devrait s'imposer sur l'extrême nord et le pourtour méditerranéen. Les températures sont globalement en baisse. C'est la fin de ce journal préparé avec Yacine Bouzard. Et je vous retrouve à 18h pour le prochain journal sur France Culture.